C'est le journal de Sébastien Logeni. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, Morphée est en danger. Notre temps de sommeil est chaque année plus court. Et pour la première fois, les Français viennent de passer sous la barre des 7 heures par jour. En cause, travail de nuit, les écrans, les trajets pour se rendre au travail. Précision à venir dans un instant. Le renoncement inattendu hier du président algérien. La rue exulte mais reste inquiète. Nous irons auprès des Algériens de Paris. Reportage à suivre. Dans l'actualité également, le Brexit, de nouveau devant les députés britanniques, vote crucial aujourd'hui pour Theresa May. Le Conseil constitutionnel français, lui, se penchera aujourd'hui sur la validité des tests osseux pour déterminer l'âge des jeunes migrants. Le retour du sauveur Zizou au Real Madrid et du théâtre en fin de journal avec la petite fille de Charlie Chaplin.
Dans 20 minutes à 7h50, je vous rappelle que l'invité de Léa Salamé ce matin est le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux.
France Inter.
Les Français rêvent de moins en moins, Sébastien, leur temps de sommeil se réduit comme peau de chagrin.
C'est un déclin inexorable et qui touche tous les pays au monde. L'être humain ne dort plus assez. C'est la conclusion pas très rassurante de Santé publique France qui publie une étude réalisée auprès de plus de 12 000 personnes de 18 à 75 ans. Et pour la première fois, donc, le temps de sommeil quotidien passe en dessous de la barre cruciale des 7 heures avec à la clé de nombreux risques sanitaires. Daniel Messager.
6h42, c'est le temps de sommeil total des adultes dans la semaine, alors que 7 heures minimales quotidiennes sont recommandées pour une bonne récupération. Et les courts dormeurs, c'est-à-dire moins de 6 heures, sont de plus en plus nombreux, près de 36%. Chez ces courts dormeurs, il y a beaucoup de travailleurs de nuit, 1 million de plus en 23 ans. Ils dorment en moyenne une heure de moins que les travailleurs de jour, soit un manque d'une nuit par semaine. Le temps de trajet entre domicile et travail est un déterminant fort de ce déclin du sommeil, aussi bien d'ailleurs dans les mégapoles que pour les habitants des zones rurales, de plus en plus éloignées des centres de vie active. Leurs 2 à 3 heures de transport par jour, c'est du sommeil en moins. Or, ne pas dormir assez signifie risque de maladies cardiovasculaires, d'accidents par manque de vigilance. Et puis, il y a tout ce qui nuit au sommeil, en premier lieu les écrans, auxquels adultes comme enfants consacrent de plus en plus de temps. Alors, comment remédier au manque de sommeil? Se coucher à heure fixe dans une chambre sans lumière d'écran, ne pas consommer de sucre lent le soir. Mais pour le temps de transport et le travail de nuit, c'est autrement plus compliqué et cela demande une réflexion économique et politique.
Daniel Messager, chef du service Société à France Inter, a noté que l'on dort un peu plus le week-end, 7h26 au lieu de 6h42 en semaine. Pourquoi dormons-nous si peu? Réponse sur franceinter.fr. Vous y trouverez également de bons conseils pour mieux dormir ou récupérer la sieste, faire du sport et bien ranger sa chambre.
Il est 7h32, Sébastien. C'est un premier succès pour la rue algérienne, mais un succès encore plein d'incertitudes.
Abdelaziz Bouteflika renonce, mais son clan reste au pouvoir. Il ne briguera finalement pas un cinquième mandat. Élection présidentielle reportée à une date inconnue. Nouvelle constitution soumise par référendum d'ici la fin de l'année. Des décisions accueillies par des concerts de klaxons dans les rues d'Alger, mais aussi par un grand scepticisme. À Alger comme à Paris d'ailleurs, dans la communauté franco-algérienne, très désabusée et très vigilante sur la suite des événements. Reportage quartier Ménilmontant, Delphine Evenou.
Attablé en terrasse, thé vert à la menthe à la main, Mohamed, cheveux gris, essaye de voir le verre à moitié plein.
C'est déjà bien. Qu'il part lui, après, je sais pas, peut-être qu'ils vont tous partir un jour. Hein.
Vite contredit par ses camarades de soirée.
C'est une mauvaise nouvelle pour nous, quoi. C'est pour gagner du temps, c'est tout.
Le communiqué de la présidence, ils l'ont lu et déjà beaucoup commenté. C'est un affront après 3 semaines d'une si vaste mobilisation sans porte à San.
Je veux dire une chose, je crois qu'il nous prend pour des cons. De quel droit se permet de nommer un Premier ministre et reporter les élections. On veut juste qu'il parte.
Pour ces hommes, pas de cinquième mandat de Bouteflika, cela signifie en fait un quatrième mandat rallongé. On n'est pas dupe, tacle Fatah.
Parce qu'ils ont vu que le peuple s'est révolté et tout. Il y a certains qui vont être limogés, qui vont être remplacés par certains. Et le gouvernement, il va rester toujours.
Tout ce qui se passe, c'est de la manipulation par les 40 voleurs.
Il en faudra plus pour nous faire arrêter les manifestations, prévient Redouane, arrivé en France en 93.
Tant qu'il n'y a pas noir sur blanc, c'est ça aussi. Tellement ces gens-là, ils nous ont menti depuis longtemps, on a du mal à y croire.
Portable dans la main, ils regardent tous les dernières nouvelles, pensent aussi à la suite.
Là, on a créé un groupe de Zmagra, voilà. Les Algériens qui sont en France.
Là, c'est écrit, en fait, ce qu'ils demandent le peuple.
la démission du président, du gouvernement complet, le Parlement qui soit dissous.
On a déjà fait tomber le mur de la peur, reste à finir le travail, conclut le groupe dans un sourire.
Le reportage de Delphine Evenou. Boeing tente de limiter la casse. L'avionneur américain a annoncé hier soir qu'il allait lancer une mise à jour du logiciel du 737 MAX 8 dont le système anti-décrochage est soupçonné dans 2 crashs en moins de 6 mois. Et puis, autre acteur industriel à connaître de fortes turbulences ces dernières semaines, l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, une nouvelle gouvernance plus transparente sera annoncée aujourd'hui depuis Tokyo, en présence de Jean-Dominique Senard, le nouveau patron de Renault. Renault qui, en France, est secoué par une affaire dans l'affaire, la mise à disposition du château de Versailles pour le mariage de Carlos Ghosn. Hier, le parquet de Nanterre a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire. Épilogue en vue pour la proposition de loi anti-casseur. Le Parlement devrait adopter aujourd'hui ce texte par un ultime vote du Sénat, mais Emmanuel Macron, je vous le rappelle, a décidé hier de saisir le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel qui doit par ailleurs se réunir aujourd'hui pour examiner une question. Les tests osseux sont-ils valables pour déterminer l'âge d'un migrant mineur? L'enjeu est de taille car un mineur peut être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance mais pas un majeur. Alors ces tests sont très controversés, la marge d'erreur est très grande et pourtant ils continuent d'être largement utilisés en France contrairement à d'autres pays. Les explications de Catherine Delanoë-Daou, elle est avocate à l'antenne des mineurs du barreau de Paris.
À Paris, quand on n'a pas de document d'identité, ce qui arrive souvent aux jeunes qui ont traversé des déserts, des mers, etc., eh bien, effectivement, on demande systématiquement une expertise d'âge osseux. Et ces expertises, il y en a plusieurs chaque semaine. En ce moment, les délais d'attente, d'ailleurs, sont importants. En ce moment, c'est de l'ordre de 4 à 6 semaines. Et ça consiste toujours, invariablement, en une radio du poignet gauche et en une radio panoramique dentaire. Tout le monde s'accorde à dire que la marge d'erreur est de 2 à 3 ans et que les marges d'erreur les plus importantes sont constatées entre l'âge de 16 ans et 20 ans, ce qui se trouve être l'âge de la très grande majorité des jeunes qui arrivent vivants jusqu'à nous. Je pense que c'est un instrument inutile, un instrument qui est humiliant pour les jeunes, surtout quand c'est pas fiable. Donc si c'est pour se donner bonne conscience en se disant « Oh bah ça va, j'ai rejeté un jeune, mais après tout, son âge osseux, il avait des grandes dents, bah il se débrouillera très bien dehors. » Non, franchement, soyons sérieux, c'est pas avec ça qu'on peut évaluer la minorité ou la majorité d'un jeune.
Maître Catherine Delanoë-Daou au micro de Corinne Audouin. Marine Le Pen ne fait pas un carton plein auprès des Gilets jaunes, résultat d'un sondage de nos confrères de France Info. 36% de ceux qui ont participé au mouvement des Gilets jaunes partagent les idées du Rassemblement national contre 26% pour la moyenne des Français. Et voilà qui devrait alimenter la colère des Gilets jaunes. Le nombre de banquiers au sein de l'Union européenne percevant une rémunération annuelle d'au moins 1 million d'euros a augmenté de près de 6% l'an dernier pour atteindre près de 5000 personnes, 5000 banquiers millionnaires.
Il est 7h37, Sébastien, quand les militants pour le climat s'inspirent des méthodes d'ACT UP.
On est encore loin, certes, des opérations coup de poing de l'association de lutte contre le sida, mais les activistes qui défendent la planète entendent bien muscler leur action avec, en retour, aussi une réponse plus ferme de l'État et de la justice. 5 militants parisiens de l'association ANV COP 21 sont ainsi convoqués ce matin au commissariat où ils risquent une garde à vue pour vol en réunion. Des vols de portraits du président Macron, c'était il y a une dizaine de jours, un acte de désobéissance civile qu'ils assument et revendiquent, Célia Kiré.
Lorsqu'ils sont entrés dans la mairie du 3e arrondissement de Paris pour décrocher et voler le portrait d'Emmanuel Macron qui était affiché dans la salle des mariages, ces militants savaient bien qu'ils risquaient d'être interpellés. Des employés municipaux ont tenté de les dissuader, mais ils sont partis tout de même avec le portrait sous le bras. Une action de désobéissance civile parfaitement assumée par Marion Hainaut, porte-parole de cette association Action non violente COP21.
Les actions de désobéissance civile, c'est complémentaire aux marches pour le climat, au recours climat de l'affaire du siècle et à d'autres actions qui nous permettraient de rester en dessous des 1,5 degrés à 2 degrés d'ici à la fin du siècle, trajectoire sur laquelle on n'est pas du tout.
Depuis quelques jours, une dizaine de militants ont déjà été placés en garde à vue quelques heures, mais pour ce jeune qui a participé à un décrochage de portraits à Paris, malgré l'avertissement d'un agent de sécurité, la lutte pour le climat doit passer par des actions radicales à la mode de Greenpeace ou ACT UP.
Quand on force un éventuel blocage, c'est parce qu'on estime qu'on est légitime pour le faire. On estime que pour notre action politique, on doit désobéir. On considère qu'il y a des choses plus importantes, en l'occurrence l'urgence écologique, l'urgence climatique. Pour toutes ces raisons-là, on ne va pas se laisser bloquer par cet agent de sécurité, fut-il animé par de bonnes intentions.
Et au-delà des gardes à vue, il peut y avoir des procès. Une militante de la même association à Lyon est convoquée au tribunal le 2 septembre.
Célia Quilleret, Stéphane Bern peut être rassuré, son loto du patrimoine trouvera encore le soutien de l'exécutif pour sa deuxième année. Le ministre de la Culture, Franck Riester, a assuré hier que l'État continuerait à abonder en 2019 comme en 2018 la mission de sauvetage du patrimoine pour une somme équivalente à celle récoltée par le loto. C'était 21 millions d'euros l'an dernier.
7h40, on termine Sébastien avec les facéties de la petite fille de Charlot.
Oui, elle s'appelle Aurélia Thierret, c'est la sœur de James Thierret, petits-enfants tous les deux de Charlie Chaplin. Aurélia est au théâtre de l'Atelier à Paris, un spectacle sans parole mais plein de malice. Stéphane Capron.
Aurélia Thierret possède la même énergie et la même espièglerie que Charlot, le personnage créé par son grand-père. Elle court partout sur le plateau de cette bonbonnière qu'est le théâtre de l'Atelier. Elle donne vie à de multiples accessoires et en fait disparaître beaucoup car le spectacle raconte l'histoire d'une kleptomane.
C'est pas nécessairement des choses auxquelles on s'attend qu'elle vole. La seule directive que j'ai eue pour ça, c'est que les objets l'attirent et lui envoient des espèces de... C'est les objets qui veulent être volés.
Dans la vie, vous n'êtes pas comme ça.
Et vous allez vous en rendre compte une fois que vous rentrerez chez vous, mais je pourrais le devenir. Non, pas encore.
Ici, il n'y a pas d'esbrouve sur scène, pas de décor grandiloquent. C'est presque un spectacle bricolé avec des objets de tous les jours et c'est ce qui fait sa saveur.
C'est jamais une science exacte. C'est des matériaux qui peuvent casser. Heureusement, ils ne cassent pas. Mais c'est vrai que c'est un travail artisanal et de rythme aussi.
Et de danse, Aurélia a comme partenaire Raimé Martinez avec lequel elle esquisse des pas de tango. Ce spectacle, mis en scène et conçu avec sa mère, Victoria, est aussi un hommage à l'histoire de la peinture. On y croise des personnages sortis des toiles de Jérôme Bosch ou d'autres de l'imaginaire de Magritte. C'est un petit bijou d'inventivité surréaliste.
Voilà, ça s'appelle Bells and Spells. Aurélia Thierret, c'est au théâtre de l'Atelier jusqu'au 12 mai.
Merci Sébastien. C'était le journal de Sébastien Le Génie.